Le dévoilement de Dieu numéro 188. Taillé du même rocher, révélation. 20 décembre 2020. Pasteur Brian Kozurek. Ce matin, j'aimerais continuer avec la pensée, sur laquelle je voudrais m'attarder un peu plus, du ministère de la pierre de fait, que nous avons étudié la semaine dernière, et continuer avec cette compréhension, jusqu'à ce que nous voyons la réflexion du ministère du Saint-Esprit dans l'épouse en cette heure tardive. Maintenant, nous savons que le ministère de la pierre de fait était le ministère du Saint-Esprit en cette dernière heure et nous voyons comment Esther ce que ce ministère expose totalement, tout ce qui Esther cachait, et l'amène à la lumière. Nous avons aussi vu, comment cette pierre de fait ou rocher qui Esther Dieu, lequel Esther notre rocher et notre refuge. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Mais le même rocher sera un rocher de scandale, et tout celui qui va s'y opposer, sera écrasé jusqu'à ses fondations. Nous avons vu que les élus, sont taillés à partir de ce rocher solide, qui est Esther Christ et nous sommes appelés à devenir comme lui, dans ce monde. Esaïe 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Ainsi, il a été tiré du rocher, qui est Dieu, alors nous sommes de petites parties de lui. Raison pour laquelle Jésus a dit, Pierre, tu es à une pierre, et sur ce rocher de la révélation, de ce que mon père Esther, lui, qui Esther aussi, votre père, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer, n'y prévaudront point contre elle. Dans Deutéronome 32, 1-4, nous lisons, Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car, rendez gloire à notre Dieu. Il est Esther le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est Esther un Dieu fidèle et sans iniquité, il est Esther juste et droit. Et comment Dieu publie-t-il son nom? Bien. Il a dit que nous sommes des épîtres, connus et lus de tous les hommes. Et il a écrit ces paroles dans nos cœurs. 2 Corinthiens 3, 2-3 C'est à vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connus et lus de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ainsi, ce que Paul dit, Esther que les 10 commandements, ont été écrits par le doigt de Dieu, sur des tables de pierre, au temps de Moïse, mais que maintenant, sous la conduite de la main du Saint-Esprit, à travers le ministère de l'Évangile de Paul, le cœur sera maintenant l'endroit où Dieu gravera sa parole, dans nos cœurs et nos pensées. Et partant de là, en vivant cette parole, votre vie devient une épître vivante, connue et lue de tous les hommes, alors que votre vie devient la parole de Dieu, écrite dans les cœurs de l'homme, pour être vue par tous les hommes. Maintenant, la semaine passée, nous avons vu que nous sommes taillés à partir de ce même rocher, qui est Esther Christ. Nous voyons aussi qu'il vient en cette heure, pour nous recevoir, comme ses pierres précieuses. Frère Branham dit, un jour, la pierre de fait reviendra, la tête de tout, et recevra l'épouse, en lui-même. Matthieu 21, 42-44. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais vu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient Esther devenue la principale de l'angle, Sester du Seigneur, que cela est-er venu? Et Sester un prodige à nos yeux? Sester pourquoi? Je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation, qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Ainsi, soit vous vous inclinez devant cette pierre principale et devenez humble à son image ou soit, elle tombera sur vous et vous détruira complètement. Parce que la grande pierre, détachée sans le secours d'aucune main, est-er ici, détruisant les royaumes des nations d'une part, et d'autre part, il rassemble ses pierres précieuses, ses joyaux, pour construire son royaume avec. Malachie 3, 16 à 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront, au jour où je produirai mes joyaux. Et qu'est-er ce qu'un joyau? C'est-er une pierre précieuse, et une pierre d'une grande valeur. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui n'aime et le sert pas. Remarquez, ces pierres sont des fils. Et Jésus en parle dans Luc 6, 40. Le disciple n'est-er pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Maintenant, ce mot parfait provient du mot grec. Kinémi signifie pas parfait. Comme si vous avez atteint une sorte d'état où vous n'avez mis fait pas d'erreur. Mais le mot signifie juste équipé. Ainsi, nous devrions lire cette déclaration que Jésus fait ici, comme suit, Luc 6, 40. Le disciple n'est-er pas plus que le maître, mais tout disciple qui est-er équipé par son maître sera comme son maître. Pourquoi cela? Parce que cela dépend de l'enseignant qui vous enseigne. Car si vous vous êtes assis sous un faux enseignant, vous écouterez un faux enseignement, et ainsi, votre pensée sera remplie d'erreurs. Comme l'apôtre Paul dit dans Romains 10, 13 à 17. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 14 à 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils n'aimés sont pas envoyés? Selon qu'il est-er écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et j'ai lu plusieurs fois, là où Martin Luther commente ces versets dans Romains, où il dit, quoi qu'ils disent qu'ils écoutent, ils se vantent en vain, à moins qu'ils n'écoutent des véritables prédicateurs. Car écouter de faux prophètes signifie n'aimer pas écouter. Ils écoutent et ils n'écoutent pas. Ils ont des oreilles, mais n'écoutent pas, ni n'aimer prêche la véritable parole de Dieu. Ce sont les quatre déclarations qui se suivent, de telle manière que l'une conduit à l'autre, mais la dernière soutient toutes les autres. Ainsi, 1. Il est-er impossible de prêcher pour ceux qui n'y sont pas envoyés. 2. Il est-er impossible d'écouter sans qu'il y ait un prédicateur. 3. Il est-er impossible de croire pour ceux qui n'ont pas écouté. 4. Il est-er impossible de l'invoquer pour ceux qui n'ont pas cru. À celle-ci doit être ajoutée une cinquième, il est impossible d'être sauvé pour ceux qui n'invoquent pas le nom du Seigneur. Martin Luther continue. Par conséquent, la véritable source et origine du salut réside à ce que Dieu envoie une personne, un véritable ministre de la parole. S'il n'envoie aucun, alors, ceux qui prêchent des faussetés, et leur prédication n'en espère pas une du tout. En fait, il serait mieux pour eux de n'aimer pas prêcher. Et aussi, ceux qui écoutent des erreurs, et il serait mieux pour eux de n'aimer même pas écouter. Raison pour laquelle je vous mets toujours en garde de n'aimer pas suivre six faux enseignants trinitaires sur YouTube et la radio. Parce qu'en dehors d'une parole confirmée, ils n'ont aucune parole. Et la leur est une erreur. Laissez-moi vous dire ce que frère Branham dit au sujet de ces trinitaires et d'où ils tirent leur inspiration. Dans sa prédication, les uns au temps de la fin 25 juillet 1965 MP, 170. Remarquez rapidement ici quelque chose de réel pendant que nous concluons. Remarquez Apocalypse 16, 13-14. Si vous voulez le noter, je n'aurai pas le temps de l'aborder. J'aimerais me rassurer que vous le voyez. Maintenant, remarquez, cela sonne entre la sixième et la septième coupe. Remarquez, nous allons terminer dans un petit instant, si vous pouvez encore patienter seulement quelques minutes. Nous terminons maintenant. Remarquez, 238 Apocalypse 16, 13 à 14. Entre la sixième et la septième coupe. Trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Avez-vous remarqué ça? Sont sortis de la bouche de quelqu'un. C'étaient trois esprits impurs, et c'étaient des esprits impurs, comme les grenouilles sont impures. Il n'a pas dit qu'il y avait trois grenouilles qui étaient sorties, mais il est dit, trois esprits impurs sont sortis, et ces esprits étaient comme des grenouilles impures. C'est comme cela que vous le lisez. Et d'où vinrent-ils? Frère Branham dit, et elles sont sorties de la bouche d'une personne. Lisons cela, nous-mêmes. Apocalypse 16, 13-14. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ainsi, qui est-ce le dragon? Bien, le dragon rouge, c'est-ce Satan, selon Apocalypse, chapitre 12. Quatrième sceau 21 mars 1963 p. 70. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. 172 suivait attentivement. Néhémie, gardez surtout pas vos yeux fixés sur le communisme. Ce n'est qu'un outil dans les mains de Dieu, pour vous permettre un jour de, pour tirer vengeance du sang, comme nous le verrons demain soir. Voyez, et ils adorèrent le dragon. 173 qui était le dragon, Satan. Est-ce vrai? Le dragon rouge. Très bien, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, c'est-ce de lui qu'il tire sa puissance, vous voyez, et ils adorèrent la bête, en disant, qui est-ce semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes de blasphème, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, et voilà. Vous voyez. Oh. Sur un. Pour blasphémer son nom, lui donner un titre, son tabernacle, qui est la demeure du Saint-Esprit. 174 pour en faire un lieu qui se trouve à Rome, la cité du Vatican. Et on pourrait continuer comme cela. Et ceux qui habitent dans le ciel. 175 Il a blasphémé contre eux, en disant que c'était des intercesseurs. Le deuxième saut 19 mars 1963 p. 81. Eh bien, par contre dans l'âge qui vient après que l'église Esther rentrait à la maison, il devient une bête. Il devient le diable incarné, le dragon rouge de lui-même. Oh là là, Néhémie, voyez-vous pas ce que je veux dire? N'est-ce pas? Il est Esther alors incarné dans son peuple. Il tient son peuple lié par son pouvoir. Le faux prophète les introduit carrément là par ses prophéties. Il leur a donné une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés à cause de cela, reniant la parole, mais ayant l'apparence de la piété. Et ainsi, nous voyons aussi que Rome Esther la bête, que Satan a incarné, se tenant au-dessus de ces sept collines, et ensuite, le faux prophète Esther le pape, et ensuite, tous les ministres de Satan, qui apparaissent comme des anges de lumière, ou des anges de l'évangile, n'enseignent que ce que le pape enseigne et s'Esther une idéologie, un dogme païen et trinitaire. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11, 13, ces hommes-là sont de faux apôtres. Ainsi, ils sont faux parce que ce qu'ils enseignent, Esther faux, et ensuite, il ajoute et ils sont des ouvriers trompeurs. Maintenant, pourquoi les appellent-ils ouvriers trompeurs? Parce qu'ils veulent que vous croyiez qu'ils enseignent la vérité, pendant qu'ils savent que ce qu'ils enseignent, c'est Esther un mensonge. Et ensuite, il ajoute, mais se déguisant en apôtre de Christ, maintenant, soit que Dieu vous a appelé à être un apôtre, soit que Néhémie l'a pas fait, et vous Néhémie pouvez certainement pas être ce que vous n'êtes pas. Ainsi, ils peuvent prétendre l'être et après, il dit, qu'ils se déguisent en apôtre de Christ. Ce n'est pas Dieu qui crée en eux le vouloir et le faire. Cela vient d'eux-mêmes, qui se déguisent en ce qu'ils n'y sont pas. Et ainsi, ces hommes sont des ouvriers trompeurs, séduisant et étant séduits. Et quelle est-ce leur séduction? Amener les gens à penser qu'ils sont des ministres de Dieu, alors qu'ils sont des ministres d'iniquité. Et ensuite, Paul continue. 14-15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Mais considérons ce que le prophète de Dieu dit à leur sujet, alors qu'il continue, maintenant, remarquez, rapidement, êtes-vous prêts? Dites, Amen, une trinité d'esprit. 171 Maintenant, mon frère dénominationnel, restez tranquille, un instant. Néhémie, vous ne levez pas, pour quitter la pièce, là où vous êtes à l'écoute par la radio. N'éteignez pas votre enregistreur, restez tranquille et écoutez. Si vous êtes né de Dieu, vous le ferez. Mais combien de ces ministres qui enseignent leur dogme trinitaire sur YouTube ont entendu parler du ministère de William Branham, l'ont étudié, et ensuite s'en sont éloignés. Environ 99%, ou plus. Je donne 1%, qui soit vrai, ce qui serait généreux, parce que je sais que j'utilise YouTube, et j'enseigne ce que le prophète enseignait. Et nous avons placé les sermons du prophète sur YouTube, ainsi Esther deux d'entre nous, et nous travaillons aussi sur les sermons de frère Vell, ce sera alors 3 pour notre part. Ainsi, ici, il y a peu qui soient restés avec le prophète. Alors, Il dit, une trinité de grenouilles. Une grenouille est un animal qui regarde toujours en arrière. Elle ne regarde jamais où elle va, elle regarde là d'où elle vient. Voyez, vous voyez, n'est-ce pas, où la doctrine trinitaire a-t-elle pris naissance? Souvenez-vous, trois esprits impurs, esprits distincts. Est-ce ce que vous saisissez? L'assemblée dit, Amen. Tirendee 241 remarquez, il regarde en arrière, au concile de Nicée, là où la doctrine de la Trinité a pris naissance, pas dans la Bible. Cette chose-là n'existe pas. Il regarde en arrière, au concile de Nicée, à Nicée, à Rome, là où la Trinité a pris naissance. Remarquez d'où ils viennent. Remarquez. Et la trinité de grenouille Esther sortit d'une ancienne trinité, qui Esther leur mère, elle a donné naissance à une nouvelle trinité. D'où Esther elle sortit? Une trinité, le dragon, vous voyez, la bête, et le faux prophète. Une trinité nouvelle pour le. Quand ces grenouilles sont-elles sorties? Quand ça? Remarquez, elles étaient tout le temps là. Mais ce n'est qu'entre la sixième et la septième coupe que ça a été manifesté, juste avant que les seaux soient ouverts pour le révéler. Car, par le message du septième ange, les mystères de Dieu seraient révélés, toutes ces choses de Trinité, ces faux baptêmes, et tout, devaient être manifestés. Que Dieu nous aide à voir la vérité. Les ans au temps de la fin 25 juillet 1965 MP, 72. Donc, l'enseignement de Balaam, pas la prophétie du Balaam. Ça, c'était très bien. Ça, c'était Dieu. Combien croit cela? L'assemblée dit, Amen. Tirendee, la prophétie de Balaam était tout à fait exacte. Parce qu'il n'a mis pouvait rien dire d'autre, l'onction de Dieu n'aurait rien dit d'autre. Et Dieu l'a confirmé, en prouvant que c'était la vérité. Mais c'était l'enseignement de Balaam. Maintenant, comparez ça à Matthieu 24, 24, 71 des oins, mais leur enseignement est faux. Les trinités, et toutes les choses du genre, faux. Antichrist. J'espère que ça Néhémie vous blesse pas. Et Néhémie raccrochez pas sur les téléphones. Et Néhémie vous levez pas pour sortir. Restez bien tranquille. Et voyons si le Saint-Esprit Néhémie va pas nous le révéler. Et nous le prouver. Vous dites, mais je. Peu importe ce que vous croyez. Restez bien tranquille. Et écoutez. Demandez à Dieu d'ouvrir votre cœur, alors vous verrez si vous êtes une ronce, ou un chardon, quelle est votre position. Voyez? Ainsi, si ce n'est pas seulement, un faux enseignement, c'est l'enseignement de l'Antéchrist, et reçoit son inspiration de l'enfer, ainsi, aimez cela, montre l'origine de leur destinée, j'espère que vous saisissez ce que je vous dis ici. Comment pouvez-vous aimer un mensonge? Il dit que la vieille Trinité a ouvert la voie à la nouvelle Trinité. La vieille Trinité, c'était d'abord à Babylone, c'était à Nu, le père des dieux, ensuite à Enlil. Anu était le dieu mésopotamien du ciel et un membre de la triade des divinités complétée par Enlil et Anki. Il était le père des dieux. Comme la plupart des dieux du ciel, Anu, quoique théoriquement, le dieu, le plus élevé, était le père de Ea, le dieu de la sagesse, et Enlil, celui du vent. Et ensuite, cette triade babylonienne ou trinité, a traversé toutes les autres nations païennes, incluant la Grèce et Rome. Cette doctrine de la Trinité a donné naissance à la chrétienté au Concile de Nicée en 325 AD. Mais elle tient son fondement du paganisme, qui trouve son origine en Satan. Si vous allez dans Wikipédia, vous lirez Thélestère la Trinité égyptienne, l'Écriture, 1 Chronique 16, 26. Ainsi, lisons pour nous-mêmes ce qui s'y réfère. 26 Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Cette trinité particulière, Esther composée d'Osiris, le Père, Isis, la Mère, et Horus, l'Enfant, mais il y a plusieurs autres en Égypte. Seulement, le concept de la Trinité, Néhémie se trouve pas dans la Bible. Pourtant presque toutes les églises de la chrétienté enseignent que Dieu est une trinité. Ainsi, même les auteurs de Wikipédia savent que la trinité Néhémie se trouve nulle part dans la Bible. Wikipédia déclare aussi une triple déité, quelquefois c'est référé comme à une triple, triplée, triplicata, tripartite, trinitaire ou triadique, ou comme une trinité, sestère trois déités, qui sont adorées comme une seule. De telles déités sont communes à travers le monde de la mythologie, le nombre trois a une longue histoire. Quant aux associations mythiques, Carl Jung considérait l'arrangement des déités en triplet d'un archétype dans l'histoire de la religion. Et quelle est-elle la trinité grecque? La triade olympique était composée de Zeus, roi des dieux, Athéna, la déesse de la guerre et Apollo, dieu du soleil, de la culture et de la musique. Dans la culture grecque, Zeus était le nom de Nimrod, Athéna pour son ami, et Apollo pour Tammuz. Ces noms sont mentionnés dans la Bible, comme les dieux de la race des Juifs apostates ou déchus. La trinité romaine, c'était Jupiter, le père des dieux, et le roi des dieux, et Juno, qui était sa sœur et mère d'Hercule, l'homme qui était à moitié dieu et moitié homme. Il était aussi considéré comme le sauveur de la race humaine. Ainsi, vous voyez les perversions du paganisme, ce qui estère aussi du satanisme, l'adoration du grand dragon. Et nous voyons la même chose qui continue aujourd'hui, et cela a dépassé la dimension religieuse et a été compensé par la dimension politique, où les satanistes veulent diriger le monde. Esther véritablement devenue l'Éden de Satan, comme le prophète nous a averti que cela serait. Maintenant, c'est l'évidence de recevoir le Saint-Esprit, Esther d'entendre, de reconnaître et d'agir selon la parole de Dieu, ou comme certains disent, entendre, reconnaître, et agir d'après la parole de Dieu, du jour dans lequel vous vivez. Ainsi, ces hommes qui enseignent la Trinité, n'ont pas le Saint-Esprit, et ainsi, n'ont pas de compréhension du tout. Et en fait, sont présentement des païens. Ensuite, en les écoutant, vous aurez la garantie d'ouvrir votre âme, à gommer leur mauvais esprit, lequel est un esprit antichrist, et quand vous le faites, cela va vous amener d'abord de la confusion et ensuite, vous allez commencer à vous demander au sujet de ceci, et vous demander au sujet de cela et quand cela commence à s'accomplir, vous questionnerez aussi la vérité serait perdue. La plus grande bataille jamais trouvée 11 mars 1962 p. 40. Comme le dit la Bible. Désastre errant dans le livre de Jude, rejetant l'écume de leurs impuretés. Nous n'aimons et voulons pas être désastre errant, nous demander si ceci est juste. Nous demander si cela est juste. Nous demander si la chose va arriver. Nous demander si, comment la chose pourrait se faire. Néhémie vous posez pas de questions. Restez là comme ces astres du ciel, comme un vrai soldat à son poste. Tenez-vous là, avec foi. La vie et la mort. En d'autres termes, il dit, ne vous inquiétez pas, mais restez à votre poste du devoir. Et c'est ce que Martin Luther nous a aussi averti à propos. Par conséquent, la véritable source et origine du salut réside à ce que Dieu envoie une personne, un véritable ministre de la parole. S'il n'envoie aucun, alors, ceux qui prêchent des faussetés, et leur prédication n'en estère pas une du tout. En fait, il sera mieux pour eux de n'aimer pas prêcher. Et aussi, ceux qui écoutent des erreurs, et il sera mieux pour eux de n'aimer même pas écouter. Ainsi, ceux qui croira à une fausse doctrine, et ça aurait été mieux d'invoquer que de tels prédicateurs n'aimés prêchent pas, que de tels auditeurs n'écoutent pas, que de tels croyants n'aimés croient pas, que de tels adorateurs n'invoquent pas, ils seront condamnés pour avoir été sauvés faussement. Comme nous lisons dans Proverbe 1, 28. Alors ils m'appelleront, et je n'y répondrai pas, ils me chercheront, et ils n'y me trouveront pas. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ainsi, seuls peuvent prêcher avec certitude, ceux qui prêchent sans erreur. Et comment pouvez-vous prêcher sans erreur? À moins que vous n'aimiez, preniez la parole parlée d'un prophète confirmé et l'alignez avec la parole écrite de l'apôtre Paul. Souvenez-vous, Paul a dit, tout homme qui prêche contrairement à ce que j'enseigne, Esther maudit. Et William Branham nous a dit qu'il a enseigné comme Paul, et jamais il n'a dévié d'un seul iota de l'enseignement de Paul, et Esther ainsi que cela doit être, ou alors vous êtes perdus et prêchez un autre Jésus. Maintenant, nous savons ce que Paul a dit dans Romains 10, et nous savons ce qu'il a dit dans 2 Corinthiens 11, et encore dans le livre des Galates, que s'ils reçoivent une mauvaise parole, alors ils recevront un mauvais esprit. Comment alors pouvons-nous penser qu'une personne assise sous un faux ministère et une fausse conception du message peut avoir un esprit correct, qui estère le Saint-Esprit, une fausse conception, estère une fausse vivification. Une conception signifie une vivification. Nous savons que l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre 1, 23, que nous sommes nés de nouveau, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jésus nous a dit que le semeur a semé une semence, qui estère la parole de Dieu. Et cette semence produira une vie, selon la loi de la reproduction, qui déclare, chaque semence doit se reproduire selon sa nature. Ainsi, recevoir une fausse parole, c'est recevoir une mauvaise semence, et ainsi, cela produira un mauvais esprit ou une mauvaise vie. Comment cela peut-il en être autrement? Savez-vous que frère Branham dit, nous devons avoir un enseignement correct, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour recevoir le sceau de Dieu, et si vous n'aimez, recevez pas le sceau de Dieu, il n'y a qu'un sceau qui soit resté, et c'est celui de Satan, lequel est la marque de la bête. Maintenant, Jésus a dit dans Luc, au chapitre 6, parlant du fait, de n'aimer pas suivre aveuglement, parce que vous pourriez suivre une personne, qui soit aveugle, comme vous. Et ensuite, il nous dit, que si votre enseignant vous a bien équipé, alors vous deviendrez comme cet enseignant. En d'autres termes, vous penserez comme lui, et parlerez comme lui, et agirez comme lui. Maintenant, Cela ne veut pas dire que vous devriez regarder à la chair, mais nous sommes guidés par une seule chose et c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, le fils ne peut rien faire, mais ce qu'il voit faire au Père, il le fait pareillement. Alors, le fils fera, agira et parlera et pensera comme le Père pense et parle et agit. Maintenant, abordons cela. Le Saint-Esprit est à l'enseignant. Et si un homme est abandonné à l'Esprit de Dieu, et est appelé à enseigner cette parole, alors il fera comme le Père lui a montré de faire, et les gens qui regardent à ce ministère, reflèteront les mêmes principes et deviendront d'une certaine manière, comme le maître est pour le disciple. 40 Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Maintenant, saisissez ce que Jésus dit ici, après. Luc 6, 41-42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil? Toi qui n'y vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Maintenant, si vous devenez un avec votre enseignant, comment pourrez-vous voir des erreurs dans cet enseignant? Pour ma part, cela n'a pas de sens, mais ils l'ont fait à Moïse. Il les a conduits en suivant Christ et ils l'ont suivi comme ils suivaient Christ. Et pourtant, ils voulaient le lapider. Et Paul dit, suivez-moi, comme je suis Christ. Pourtant ils voulaient le lapider. Et c'est pareil avec William Branham, et j'ai vu cela arriver avec Frère Vell, et même dans mon propre ministère. Ainsi, nous voyons Jésus avertir le disciple sur le fait d'avoir un mauvais focus. Maintenant, remarquez la chose suivante, que Jésus nous dit ici, 43-44. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On n'aime cueille pas des figues sur des épines, et l'on n'aime vendange pas des raisins sur des ronces. Et nous savons que dans la prédication, les uns au temps de la fin, William Branham nous a enseigné que le fruit, c'était l'enseignement de la saison. Qu'enseigne-t-il pour la saison? En d'autres termes, le fruit est ce qu'ils enseignent. Le fruit de leur ministère. Et il nous dit que si vous êtes un bon arbre, alors vous n'aimez, pourrez pas enseigner des erreurs. Votre enseignement sera fixé sur l'objectif. Car le mot péché signifie manquer le but. Mais le mot juste signifie être justement sage. Et comment pouvez-vous être un homme juste, si vous êtes injuste dans votre pensée? 45 L'homme bon tire de bonnes choses. Maintenant, souvenez-vous, le cœur signifie la compréhension du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, à la lumière de ce que Jésus dit ici, il dit que si votre compréhension est bonne, vous porterez de bons fruits ou un bon enseignement, et si votre compréhension est fausse, alors vous porterez un mauvais fruit ou un mauvais enseignement. Votre pensée est comme un jardin, et là-dedans, vous plantez beaucoup de semences, et ces semences qui sont plantées dans votre pensée, sont des choses qui seront manifestées dans votre vie. Ainsi, qu'importe ce que vous plantez, vous le récolterez certainement. Et ainsi, ce avec quoi vous nourrissez votre pensée, ce sont des semences et deviendront manifestes dans votre vie. Maintenant, C'est-à-dire la fin des temps et les gens doivent manifester la sorte de semence qu'ils sont. Et nous savons que tout ce qui est manifesté, l'est par la lumière. C'est-à-dire Éphésiens 5, 13. Ainsi, nous devons comprendre que toutes les semences sur terre doivent arriver à la manifestation de ce qu'ils sont et la nature de la semence qu'ils ont se manifestera ouvertement une fois que cette lumière frappe la semence. Et ainsi, Jésus continue comme nous lisons au verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et Néhémie faites-vous pas ce que je dis? Et comment pouvez-vous dire que vous croyez le message, si Néhémie ne le vivait pas? Comment pouvez-vous dire que vous croyez le signe, si Néhémie ne l'appliquait pas dans votre vie? Maintenant, nous allons arriver au cœur de cette parabole. Alors que nous lisons le verset 47-48, « Je vous montrerai à qui est-il semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est-il semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est-il venue, et le torrent s'est-il jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Maintenant, rappelez-vous qu'un rocher représente une révélation. Ainsi, cet homme a bâti sa maison sur la révélation, mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est-il semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison était grande. Maintenant, remarquez que la seule différence est que l'un a entendu, et a mis en pratique, ce qu'il avait entendu, tandis que l'autre a aussi entendu, mais n'a pas mis en pratique ce qu'il avait entendu. Ainsi, la révélation que l'un avait, était de faire ce que la parole disait de faire, pendant que la révélation que l'autre avait, était de Néhémie pas faire, ce que la parole disait de faire. Regardez. Qu'est-ce ce qui sauva Noé et sa famille, sa foi en Dieu, qu'il allait pleuvoir, ou ses actions, qui étaient la résultante de sa foi en Dieu? En d'autres termes, ses œuvres que Dieu lui avait ordonné de faire, et c'était pour construire l'arche. Et il nous a été demandé d'appliquer le signe, et je n'ai mis comprend simplement pas, comment les gens peuvent penser que c'est simplement y croire. Si vous demandez d'appliquer la peinture, vous chercherez un rouleau ou une brosse à peinture et ouvrirez la boîte et commencerez à peindre. C'est ainsi, que vous l'appliquez, vous l'utilisez. Et frère Branham dit que nous devons l'appliquer. Le signe 1er septembre 1963-34-9. Vous devez vous aimer, les uns, les autres. Les croyants doivent se séparer du monde. Néhémie le prenez pas à la légère. Et ensuite, vous qui écoutez ceci, sur bande, vous, femmes, vous, hommes, écoutez une minute. Si vous m'aviez jamais cru, croyez maintenant. Il est le temps d'arrêter de se disputer l'un, l'autre. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ, et ayez de l'amour, de l'honneur et du respect, les uns envers les autres. Hommes, respectez vos femmes, vous respectez votre foyer. Rassemblez votre foyer, parce que, souvenez-vous, cet agneau était pour la maison, non pas pour une seule personne. Le foyer entier devait aussi être dedans, chaque chose devait être placée à l'intérieur. Nous devons nous aimer les uns, les autres, et les croyants devraient se séparer du monde. 35-3 remarquez, qu'il n'est mis s'était pas réuni pour parler au sujet du message. Ils se sont rassemblés pour appliquer le sang, appliquer le signe. Sester, ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et sa congrégation, les administrateurs, les diacres, vous, frères. Il est temps de mettre de côté toute la folie du monde. Le temps de laisser toute autre chose. Nous avons vu assez, maintenant, que nous sommes certains, sûrement, et le signe doit être appliqué. Sans cela, vous périrez, vous devez périr. C'est la seule chose. Oh, n'aimez vous rassemblez pas, pour dire, je crois cela, mettez-vous en dessous. Entrez dedans. Comment le faire? Par un seul esprit, nous sommes baptisés dans le corps de Jésus-Christ. Que tous croient, du fond de votre cœur. Voyez, il n'était pas responsable pour tout celui qui était en dehors. Nous trouvons que cette même parabole dans Matthieu 7, 24-25, c'est-à-dire pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Maintenant, si nous voulons appliquer les symboles dans cette parabole, nous devons savoir ce qu'ils signifient, pour comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, il a dit, que la pluie tomberait, et nous savons que selon Deutéronome 32, 2, Dieu a dit, que sa doctrine tomberait comme la pluie. Ainsi, nous voyons ici, que la pluie doit venir avant le déluge. Maintenant, nous savons que Satan vient comme un déluge, mais nous savons tous qu'un déluge représente le jugement par la parole. Comme il en était au jour de Noé, ainsi, en sera-t-il quand le Fils de l'homme sera révélé. Et comme la doctrine commence à apparaître sur la face de la terre, alors, les jugements que la doctrine apporte avec elle, commencent à secouer chaque maison, qui n'est pas bâtie sur le rocher, qui est la révélation. Vous voyez le déluge? Ce sont les eaux de séparation, et nous savons que les eaux de séparation, c'est la parole, elle-même. Remarquez, les pluies viennent premièrement, la doctrine ensuite, le déluge qui sont les eaux de séparation, qui emportera n'importe quelle maison, qui n'est pas bâtie sur un rocher, qui est la révélation. Et aucune autre révélation, le fera. Car Christ est ce rocher. Et ainsi, il y a un seul Seigneur et une seule foi ou une seule révélation et c'est la révélation de Jésus-Christ. Et bâtissant votre maison, sur ce rocher, qui est Christ, elle résistera à tout orage qui viendra. Ainsi, il dit, les pluies tomberont, c'est la doctrine, et ensuite les déluges s'élèveront, lesquels sont les eaux de séparation, qui viennent comme une résultante de la doctrine, et ensuite, les vents souffleront, ceux qui parlent de tout vent de doctrine, et par la ruse des hommes, par lesquels ils mentent, dans le but de séduire. Et cela frappera cette maison, et si elle n'est pas bâtie sur le rocher de la révélation de Jésus-Christ, alors elle n'y résistera pas. Si vous venez simplement à l'église, parce que vous pensez que vous devez le faire, observez, la pluie tombe, et la chose suivante interviendra les eaux de séparation. Alors, sur quoi votre maison est-elle assise? Comme je l'ai déclaré le mercredi soir passé, que si vous avez reçu la révélation de Jésus-Christ vous serez testé pour voir. Si vous l'aviez reçu ou pas. C'est l'épreuve de votre foi, qui est l'épreuve de votre révélation. 26-28. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et Néhémie les met pas en pratique, serait semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Après que Jésus achevait ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Maintenant, la version du roi Jacques utilise le mot frappé ici, mais le mot frappé n'est pas une bonne traduction du mot ekplesso. C'est ce que Jésus a utilisé ici, parce que cela vous donne une fausse idée de ce qui arrive. Le mot grec utilisé ici est ekplesso et cela signifierait expulser un coup, chasser, larguer par un coup, ou chasser. En d'autres termes, il n'aimait voulait pas de sa doctrine. Il voulait le chasser, le larguer, car sa doctrine était si dure pour eux d'entendre. Et il n'en voulait pas. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient tous parler du Seigneur et de parler de la parole. Mais il a dit dans Esaïe 29:13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et c'est ce que Jésus leur a cité dans Matthieu 15:7-8. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Jéhovah Jireh, première partie, 5 juillet 1962, 23. Voyez, vous Néhémie pouvez pas y aller, par des émotions. Voyez, votre vie que vivez, témoigne de ce que vous êtes. Voyez, qu'importe le genre de sensation, vous Néhémie pouvez pas baser le christianisme sur une quelconque sensation. C'est une vie. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Non pas. Pas leur profession. Non pas par ce qu'ils disent. Et Jésus a dit aussi, vous parlez en bien de moi, mais votre cœur est loin de moi. C'est ça leur profession. Voyez, votre vie montre ce qu'il en est. Et si un homme dit qu'il croit Dieu, et renie une parole de cette Bible, ou la change d'une certaine manière, ce serait faux. Luc 21:34-36. Faites attention que vos cœurs n'aient s'alourdissent par les excès du 1. Manger et du 2. Boire. Et par 3. Les anxiétés de la vie. Et que ce jour Néhémie vienne sur vous de manière imprévue, comme un piège, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez capables d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Maintenant, arrêtons-nous ici pour un moment, pour voir exactement ce que ceci signifie. Il nous a dit d'être prudents au sujet de trois choses qui pouvaient nous alourdir et nous piéger. La dissipation, qui signifie dépense ou consommation inutile. 3. Indulgence dissolue dans le plaisir sensuel, intempérance. 4. Un amusement, une diversion. Ainsi, nous sommes avertis d'être prudents, n'aimez pas devenir aussi lourd par ces choses qui sont rampantes dans notre société d'aujourd'hui. C'est la Odyssée. Pleine vitesse. Et ensuite, il dit, l'ivresse, ce qui sous-entend une perte de capacité au bon raisonnement. Et être résolu dans nos pensées. Les soucis de cette vie, et Jésus nous a dit, de nous inquiéter de rien. Vous voyez, Dieu n'est pas arrogant. Et il n'aime et veut pas que nous le soyons, au sujet de quoi que ce soit. Il a dit que nous avons besoin de nous tenir dans la présence du Fils pour mûrir. Non pas courir, 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 mais se tenir dans sa présence, jusqu'à ce que nous devenions doux dans notre esprit et matures dans nos âmes. Maintenant, cette Écriture nous dit que si nous n'y sommes pas fixés sur Christ, quand ce jour viendra, nous allons le manquer, et pourtant ces trois choses sont celles sur lesquelles le monde s'accroche, ils l'ont déjà manqué. Remarquez qu'il a dit, si vous êtes emportés par ces choses, et que ce jour Néhémie vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ainsi, nous regardons à la condition du temps de la fin, et nous savons que nous devons nous focaliser sur quelque chose. Si vous êtes fixé sur un objectif, alors votre corps est plein de lumière. Amos 8:11-12. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils n'y la trouveront pas. Maintenant, dans le livre des Romains, au chapitre 7 et au verset 7, à travers le reste de ce chapitre, Paul parle du combat du péché, qui esterne l'incrédulité. Maintenant, au verset 6, Paul nous parle au sujet de vivre une nouveauté de vie, par l'Esprit. Il a dit, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. » Et frère Branham, en parlant de la femme tsunamite, dit, « Quand elle voulait donner ce qu'elle avait, pour soutenir la parole, Dieu la nourrit. Et si vous voulez donner l'esprit que vous avez, lequel esprit, Dieu vous l'a donné, pour soutenir la parole, alors Dieu vous gardera en vie. Dieu regarde à votre cœur et votre attitude envers sa parole. Le soutien que nous apportons à cette parole, s'estère à cela que Dieu regarde. Parce que ce soutien estère un réflecteur de nos cœurs et montre quel genre d'esprit motive notre vie. Il n'expose pas vos péchés, ce n'estère pas l'amour. Et Dieu estère amour. 1 Corinthiens 13:4-8. La charité estère patiente. Elle estère pleine de bonté. La charité n'estère point envieuse. La charité n'émit se vante point. Elle n'émit s'enflot point d'orgueil. Elle n'émit fait rien de malhonnête. Elle n'émit cherche point son intérêt. Elle n'émit s'irrite point. Elle n'émit soupçonne point le mal acquis. Elle n'émit se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité n'émit périt jamais. Romains 7:7-25. Nif. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi nous dit, tu n'es aimé convoitera point. Mais le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprévit, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Maintenant, c'est-à-dire une grande déclaration que Paul fait ici. Je veux le relire encore et je veux que vous pensiez, à ce qu'il dit ici. Le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. 11-19. Car le péché saisissant l'occasion offerte par le commandement, me séduisit, et pas me fit mourir par le commandement. Ainsi, donc, la loi Esther sainte, et le commandement Esther saint, juste et bon. Ce qui Esther bon a-t-il donc été pour moi une à l'origine de la mort? Pas du tout. Mais c'est Esther le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui Esther bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons, en effet, que la loi Esther spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je n'ai mis c'est pas ce que je fais, je n'ai mis fait point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je n'ai mis veut pas, je reconnais par là que la loi Esther bonne. Et maintenant ce n'est Esther plus moi qui le fait, mais c'est Esther le péché qui habite en moi. Ce qui est Esther bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est Esther à dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je n'ai mis fait pas le bien que je veux, et je fais le mal à qui que je n'ai mis veut pas. Laissez-moi lire le reste de la traduction Weymouth 7, 20-25. Mais si je fais ce que je n'ai mis désire pas, il n'est mis peut pas être dit, que c'est Esther moi qui le fait, mais le péché qui demeure en moi, qui le fait. Je découvre ainsi que la loi de ma nature Esther, que quand je désire faire ce qui est Esther juste, le mal acquis, se tient en embûche contre moi. Mais au fond de moi, toute ma sympathie Esther pour la loi de Dieu, mais je découvre en moi, une loi différente. Qui Esther en dualité avec la loi de ma compréhension, et me gardant captif à la loi, qui Esther continuellement à l'œuvre dans mon corps, la loi du péché. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps chargé de péché, grâce soit rendue à Dieu, à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour résumer, avec ma compréhension, je, mon vrai moi, suis esclave de la loi de Dieu, mais dans ma nature intérieure, je suis esclave de la loi du péché. Maintenant, dans la compréhension de deux natures qui habitent à l'intérieur, nous devons premièrement comprendre que quoique nous ayons deux natures, nous n'avons pas deux âmes. Ce dont Paul parle ici, c'est Esther la nature de l'esprit ou de l'âme, contre la nature de votre chair. C'est Esther votre chair qui a été semée dans le péché, et vint dans le monde, proférant des mensonges, mais pas votre âme. C'est Esther la vie que Dieu a soufflée en vous. Maintenant, je réalise que l'Écriture nous dit que l'âme qui pêche, cette âme mourra. Et c'est Esther la vérité. Mais cela parle de la vie, qui pêche, c'est Esther elle qui doit mourir. Et ici, Paul nous dit que nous avons deux natures, se battant au-dedans de nous. La nature de Dieu par l'esprit, et la nature de la chair par l'acte naturel de la procréation. Dans Questions et Réponses 30 août 1964, Frère Branham dit, ceci est Esther un esprit mortel dans un corps mortel. Mais maintenant, vous Néhémie ne pouvez pas être dans deux corps à la fois, mais il peut y avoir deux natures en vous en même temps. Maintenant, la nature de l'Esprit du Seigneur. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas né physiquement comme Esther le cas pour ce bébé, mais ce qui est Esther arrivé, c'est Esther que la naissance spirituelle Esther produite en vous. Et pendant que cette naissance spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre cœur, il y a un corps physique ou plutôt céleste, qui grandit pour recevoir cet esprit. Et lorsque la vie quitte ce corps, elle va dans ce corps-là. C'est Esther juste comme lorsque le corps vient sur la terre, l'esprit entre, Et lorsque l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Car nous savons qu'après que ce tabernacle terrestre sera détruit, nous en avons un autre qui attend déjà. Voyez-vous? C'est-à-dire cela, le corps spirituel des gens. Ainsi, en revenant à ce que Paul nous dit, aussi longtemps que nous vivons dans le corps du péché, nous aurons un combat avec ce corps, pour l'amener à la soumission à la parole de Dieu. Parce que le corps est créé à partir d'une mauvaise semence, par un mauvais désir. Ainsi, il n'exprimera qu'un mauvais désir. Mais quand notre âme est vivifiée, elle cherchera premièrement le royaume de Dieu. La clé pour comprendre ceci, se trouve dans Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens 2, 1-10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne n'ait mis se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Martin Luther, dans sa préface du livre des Romains, il dit, Dieu juge selon la profondeur du cœur, et pour cette raison, sa loi l'exige du plus profond du cœur et Néhémie peut pas être satisfait avec les œuvres, mais plutôt condamne les œuvres qui sont faites, Néhémie venant pas du fond du cœur, comme l'hypocrisie et les mensonges. Là, loi est spirituelle, car si la loi était faite pour le corps, il serait satisfait avec les œuvres, mais comme c'est spirituelle, personne Néhémie peut le satisfaire, à moins que ce que vous faites provienne du fond du cœur. Mais un tel cœur n'est-ce donné que par l'Esprit de Dieu, qui rend l'homme égal à la loi, ainsi il acquiert un désir pour la loi dans son cœur, et désormais n'a rien de peur et de compulsion, mais toute chose provenant d'un cœur volontaire. Cette loi qui est ainsi spirituelle, sera aimée et accomplie dans un cœur spirituel, et exige un tel esprit. Quand cet esprit n'est pas dans le cœur, là, le péché demeure, et le mécontentement de la loi, et l'inimitié envers elle, quoique la loi soit bonne, juste et sainte. Le péché, dans l'Écriture, Néhémie signifie pas seulement les œuvres extérieures du corps, mais toute activité qui pousse l'homme aux œuvres extérieures, à savoir le cœur le plus profond, avec toutes ses puissances. La foi de l'autre côté, est-elle une vie, une confiance audacieuse dans la grâce de Dieu? Ainsi, aussi certain qu'un homme peut vivre pieusement sa vie là-dessus, deux milliers de fois. La foi n'est-elle pas une notion humaine et un rêve que certains détiennent pour la foi? La foi, toutefois, est-elle une œuvre divine en nous? Cela nous change et fait de nous, des hommes différents, dans le cœur et dans l'esprit et la pensée et puissance, et cela amène avec le Saint-Esprit. Ézéchiel 36, 26-27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. L'imitation du christianisme 12 janvier 1957 M. Ainsi Dieu doit vous donner un nouveau cœur, non pas un cœur rapiécé, un nouveau cœur. Cestez votre intellect avec lequel vous pensez, une nouvelle manière de penser. Alors, il dit après cela que je vous donnerai un esprit nouveau qu'Esters, un nouveau désir, je veux faire ce qui est juste. Regardons à l'invisible 10 avril 1959 6. Il y a donc environ 4 ans, je lisais à Chicago dans un journal un gros titre qui disait que la médecine avait découvert un petit compartiment dans le cœur de l'être humain, où il n'y a même pas une cellule. Cela ne se trouve pas chez les animaux, cela ne se trouve que dans le corps humain, le cœur de l'homme. Et ils ont dit, cela doit être la demeure de l'âme. Ainsi, l'homme pense donc avec son cœur. Vous regardez avec vos yeux, mais vous comprenez avec votre cœur. Ainsi, si votre cœur reste juste avec Dieu, vous aimerez avoir la pensée juste, qui sont ses pensées, et s'il vous a donné un esprit nouveau, alors, vous aurez un désir de penser, ses pensées. Et jusqu'à ce que votre désir change, il n'aimait peut placer son Saint-Esprit, qui vient en vous, dans la forme de sa sainte parole en vous. Mes paroles sont esprit et vie. Ainsi, Dieu ne placera pas sa sainte parole dans un vase qui n'a pas la bonne compréhension, ni le bon désir d'avoir la bonne compréhension. Raison pour laquelle, j'ai dit tout le long, que la seule chose que le quintuple ministère peut faire pour vous, c'est de vous enseigner la doctrine afin que Dieu puisse loindre dans votre cœur et produire la vie de sa parole, demeurant dans votre vie. Prions. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bill Venga, bilvenga@yahoo.fr. C'est Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA.